Vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Cette semaine, nous parlons d'un superbe film sorti ce mercredi 10 novembre. Ça s'appelle Une vie démente, réalisé par Anne Siro et Raphaël Balboni. Un film qui raconte l'histoire d'Alex et de Noémie, un couple avec un désir d'enfant. Et les choses se compliquent quand Suzanne, qui est la mère d'Alex, change de plus en plus de comportement. Suzanne finalement redevient enfant. Le couple, lui, se retrouve au milieu de cette tempête, à la fois tragique et drôle, une sorte de parentalité à l'envers. Pour parler de ce film, j'ai le plaisir de recevoir ces deux réalisateurs, Anne Siro et Raphaël Balboni. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai succinctement résumé le film, Une vie démente. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
L'idée du projet nous est venue d'une expérience personnelle qui nous a été donnée à vivre. Et donc, ce n'est pas du tout autobiographique, mais par contre, c'est clairement inspiré d'une expérience du vécu. En expérimentant cela, on s'est vraiment dit qu'il y avait tout un panel d'intensités qu'on traversait quand on était accompagnant. Bien sûr, il y a de la douleur et il y a de la détresse, mais ce n'est pas le seul endroit de l'intensité qu'on expérience quand on est dans ce type de situation.
Oui, il y avait vraiment l'idée aussi de s'approprier des choses qu'on avait vécues, d'en faire une histoire, mais tout de suite avec ce ton décalé et burlesque. Ça, c'était très important pour nous d'aborder ce sujet avec aussi de l'humour. Parce que voilà ce qu'on a été amené à vivre, ça a été intense, mais intense à différents niveaux. Parfois, il y avait des moments de grande détresse et aussi des moments de rire parce que les choses étaient complètement décalées, parfois complètement burlesques. Et pour nous, c'était vraiment important de rendre cette dualité-là.
Parce que justement, il ne faut pas résumer le film Une vie démente à un film sur une maladie neurodégénérative, on est d'accord ?
Oui, parce que nous, l'impression qu'on a, et d'ailleurs quand on sort des projections du film, on est souvent abordé par des personnes qui ont des situations tout à fait autres. Des parents qui ont un enfant autiste ou des personnes qui ont un frère ou une sœur bipolaire. Et en fait, la sensation que nous, on a, c'est que c'est un film sur comment on fait pour composer entre les projets et les désirs qu'on a et des choses, des problèmes qui s'imposent impérieusement dans nos existences, comme les problèmes de santé. Comment nous, on compose entre ce qui nous arrive et ce qu'on veut faire.
Vous voulez rajouter quelque chose peut-être, Raphaël ?
Ce qui est assez touchant à voir, c'est que c'est un film où en fait, les gens rient beaucoup. À plein de moments, les salles rient énormément dans le film, et puis il y a des moments de grande émotion. Et voilà, c'est un film où le spectateur passe par ces états-là, et ça rend très bien ce que nous, on a pu vivre avant, quoi.
Alors, vous en avez parlé il y a quelques minutes. Anne, pour autant, je vais poser la question plus en détail. Pourquoi avoir choisi ce thème qui est quand même très spécifique ?
C'est parce que nous, c'est l'expérience qu'on a été amené à vivre personnellement. Donc, on s'est appuyé sur cette expérience pour faire le film.
Et la maladie, en fait, de Suzanne, donc du personnage de Suzanne, qui est la même maladie que notre parent avait, c'est une démence sémantique. Donc, c'est une maladie un peu particulière, c'est une forme d'Alzheimer, mais qui fait que le malade n'a jamais conscience qu'il est malade. Et du coup, pour lui, c'est tout le monde qui déraille autour. Et c'est ça qui amène aussi ce côté complètement décalé, très compliqué pour les aidants proches, pour le fils, pour la belle-fille, pour tout l'entourage, mais aussi un côté très joyeux par rapport à ce malade qui ne comprend pas ce qui se passe et qui essaye de continuer à vivre et à aller vers tout ce qu'elle a envie de faire, quoi.
Quand on aborde ce sujet-là, mais mêlé aussi à une histoire de couple, à de l'humour, bref, autant d'ingrédients que l'on retrouve dans votre film, comment on travaille sur tout cela, sur toutes ces émotions ?
Alors nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on implique les acteurs et les actrices très tôt dans notre processus. Donc aussitôt qu'on a un premier jet de récit, on va expérimenter certaines scènes avec eux. Et donc, on ponctue notre écriture de séances de répétition où on filme et qu'on monte. Et du coup, on établit comme ça un petit brouillon maquette du film. Cette maquette nous permet d'expérimenter beaucoup de choses et notamment de voir comment de travailler cette ligne de crête entre l'émotion et le rire. Et tout le temps bien rester à cet endroit entre le rire et la tristesse.
Et on travaille aussi beaucoup avec, en fait, dès l'écriture, donc cet aller-retour brouillon du film et papier, on fait lire énormément. Et donc, on a beaucoup de retours qui nous permettent de mieux comprendre un peu comment les choses sont perçues. Et pareil, ensuite, après le tournage, on fait énormément de vision test. Donc, on a un petit public qu'on réunit. Là, on l'a fait 11 fois. sur le montage image. Et donc, tous les mercredis, on avait deux personnes du milieu professionnel, deux personnes qui n'étaient pas du milieu, deux hommes, deux femmes, et puis on visionnait un premier montage, puis un deuxième, et comme ça, on avançait avec des allers-retours avec ce petit public qui nous permettait de, bah justement, de cerner un peu qu'est-ce qui se passait, où est-ce que c'était drôle, où est-ce que c'était moins drôle, comment l'émotion avançait et était perçue par le spectateur, quoi.
Alors il y a quelque chose qui marque, hein, puisque vous parlez des acteurs de ce film, c'est leur justesse. C'est en tout cas ce qui se dégage fortement quand on les voit évoluer. Comment ont-ils vécu le tournage de ce film?
Alors les interprètes, donc comme on les implique très tôt, c'est une longue aventure avec eux. Alors on les accapare pas tout le temps, mais en tout cas on répète très régulièrement pendant l'année et demie qui précède le tournage. Les interprètes ont vraiment le temps déjà de se rencontrer entre eux, de rencontrer les décors, de nous rencontrer nous, de former équipe, de peaufiner leurs personnages, de les expérimenter dans toutes sortes de situations. Et donc il y a vraiment un travail où on se rencontre au milieu, c'est-à-dire que nous, notre scénario est un travail en cours. Et donc nous, on s'inspire aussi beaucoup de ce qui va se passer spontanément pendant la répétition pour réécrire une scène ou pour en inventer une nouvelle. Du coup, il y a un travail de rencontre entre le scénario et les tempéraments des acteurs et des actrices en tant que personnes. Et il y a quelque chose où on façonne un peu des personnages, ces répétitions et notre écriture permettent de façonner des personnages sur mesure pour ces interprètes-là. Ce sont des très bons interprètes. Enfin, nous, on les a choisis parce qu'on les trouve formidables. Donc voilà, ils ont aussi beaucoup de talent au départ. Et ensuite, ce long travail de répétition et d'écriture, mi-plateau, mi-papier, nous permet vraiment de créer le personnage avec eux.
Et puis, il y a aussi cette idée que, enfin, ils en parlent souvent quand ils viennent présenter les films, c'est qu'en fait, comme on se voit beaucoup en amont, le moment du tournage est beaucoup moins sacralisé. Il y a beaucoup moins un moment où tout se fige sur ce moment du tournage. Le tournage, en fait, c'est la continuité de ce qu'on a déjà fait, vu qu'on a déjà beaucoup répété les scènes sur les décors avec une caméra. Mais là, c'est un peu la même chose. En plus, on travaille avec une équipe très légère, très petite. Donc, il y a un peu plus de monde. C'est quand même un peu différent, mais c'est quand même dans une espèce de continuité. Et ce n'est pas un énorme palier à passer pour eux, qui rend la chose aussi plus simple à aborder, plus spontanée, quoi. Il y a tout ce jump cut qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des petits morceaux de la scène qui est filmée dans le même axe. Et ces petits morceaux qu'on va chercher, bah, c'est aussi à chaque fois, on va dire, les pépites de ce que les comédiens ont proposé. Et on ne va pas se fixer sur, voilà, il y a telle réplique, je ne sais pas, sur un film, on va dire, plus classique. Il y aurait des dialogues et puis il y aurait des répliques. Et il faudrait que telle réplique soit dans le film, dans le montage en tout cas, parce que sinon on ne comprend pas la suite de l'histoire. Ici, on a une matière assez ouverte. Et donc, on va aussi pouvoir aller piocher les meilleurs moments de ce que les acteurs ont proposé et recomposer une histoire aussi. Au montage, il y a vraiment un travail d'écriture qui est très important. On a besoin de beaucoup de temps, nous, pour monter parce qu'on recompose un peu tout avec tout ce qui a été tourné, quoi.
Et ces acteurs, on va les citer, hein, justement, puisqu'on en parle.
Jo Deuzer, Lucie oui. Devet, Jean Lepelletier et Gilles Romiche.
Voilà, qui jouent donc les personnages de ce très beau film. Petite question plus artistique maintenant. On remarque qu'il y a plusieurs tableaux dans ce film avec un choix des couleurs qui est très important. Pourquoi avoir fait ce choix visuel ?
Alors, il y a plusieurs choix formels. Il y en a un, par exemple, qui est ce motif fleuri qui vient envahir toute la chambre à coucher. Pour nous, c'était vraiment l'envie de faire une traduction visuelle de la manière dont la situation qu'ils vivent avec la condition de Suzanne qui interfère avec leur vie. On voulait montrer comment ce motif occupe petit à petit toute leur intimité. Enfin, on voulait montrer un peu le côté invasif de cette situation dans leur vie intime. Et donc, il fallait que le motif rentre par Suzanne. Et en fait, Suzanne, au début du film, achète une housse de couette qu'elle trouve très belle à Alex et Noémie. Et donc, c'est cette housse de couette que Suzanne n'aurait peut-être pas dû acheter parce que c'est avec de l'argent qu'elle n'avait pas complètement. Mais ça, on ne le comprend pas encore à ce moment-là. Et c'est par cette housse de couette qu'elle leur achète que le motif se répand dans toute la chambre parce qu'ils sont fort envahis par la situation qu'ils subissent jusqu'à ce qu'ils décident de l'embrasser pleinement et de tout emporter dans le mouvement de la vie. Et où là, OK, ils embrassent tout. Le motif peut prendre tout son espace, mais de manière joyeuse et non de façon envahissante.
Et pour les autres tableaux, donc c'est tous les moments où les personnages sont face aux gens de la société. La banque, la caisse des retraites, le gynécologue, le neurologue. Et donc là, on s'était dit, tiens, quand on répétait, quand on travaillait en répétition au début, on les filmait dans notre salon et on faisait nous les voix des neurologues et tout ça. Quand on a monté ces essais, on se dit, ah mais c'est marrant, ça marche bien. Du coup, on s'est dit, bah tiens, on va garder nos voix. Donc c'est nous qui faisons toutes les voix, un peu trafiquées pour qu'on connaisse pas. Donc ils sont face à la caméra presque. Et donc on s'est dit, on va décaler le code. Quand on filme, quand on refait une fausse banque dans un film plus classique, on va toujours chez un médecin, on va, je sais pas, mettre un stéthoscope, mettre des petits signes des codes pour que le spectateur comprenne où on est. Et nous, on s'est dit, tiens, on va décaler ça, un peu comme Suzanne, formellement, décale un peu tout. Et ben, on décale le code et on joue avec le spectateur. C'est vraiment un jeu avec lui. Le costumier, Frédéric Denis, a pensé des vêtements pour chaque endroit. On a réfléchi à ça ensemble. Et puis, on a la déco à utiliser le même fond. Donc, ils sont un peu aspirés comme ça dans ces endroits. Comme si, quand on est dans ces endroits, parfois, on a du mal à être nous-mêmes et on est un peu aspiré par le lieu qui est très, très présent comme ça.
Et puis il y a aussi le choix des quatre saisons de Vivaldi qui accompagnent différentes séquences.
Oui, alors la musique, c'est essentiellement Nils Fram, qui est un pianiste de formation et qui est un génial musicien de musique électronique. Donc c'est les nappes électroniques qu'on entend régulièrement dans le film. Et effectivement, on a voulu mêler à cette musique très contemporaine les quatre saisons de Vivaldi, parce que les quatre saisons, c'est ce morceau tellement connu de tous et composé il y a tellement longtemps, ce morceau tellement brillant qui a traversé les siècles et qu'un homme a composé chez lui un jour et que tout le monde écoute encore plusieurs siècles plus tard, et qui est tellement reconnaissable que toutes formes d'interprétation du morceau ont été proposées. Et donc nous, dans le film, chaque fois qu'on laisse entendre les quatre saisons de Vivaldi, c'est une interprétation différente, parce qu'on voulait aussi s'amuser de ces quatre saisons qui sont sans arrêt réinterprétées et donc qui se métamorphosent perpétuellement, tout en étant très reconnaissables.
Ça venait aussi à la base de notre parent qui écoutait plutôt des musiques, on va dire, plutôt Arvo Pärt, des choses un peu plus intello, entre guillemets, et d'un coup qui s'est mis à écouter Vivaldi à fond dans la voiture. C'est un morceau très symbolique, très intéressant par toutes les formes qu'il peut avoir. Et il y avait quelque chose de très drôle aussi de la voir, et c'est dès le début, quand elle arrive au début, avec ses quatre saisons à fond la caisse dans sa voiture, tout de suite, le fils remarque, tiens, c'est bizarre. Voilà, c'est les premiers signes, en fait, aussi, ça permettait d'amener ça.
Vous avez aussi remporté plusieurs prix avec ce film. Est-ce que vous voyez ça comme une prise de conscience du public et des professionnels sur une thématique, peut-être de société, oui, de société?
En tout cas, ce qui se passe, nous, qui nous rend très heureux, on a reçu notamment beaucoup de prix du public, qui est un prix magnifique parce que c'est quand même pour le public en premier qu'on fait tout ce travail. Et du coup, nous, on était très heureux que sur une thématique qui a priori aussi dure et aussi complexe, que d'avoir réussi à remporter l'intérêt du public, d'avoir réussi à lui transmettre notre regard à nous sur cette situation difficile. Nous, en tout cas, on ne sait pas exactement ce qui se joue pour le public, mais nous, en tout cas, on a été très heureux que notre vision particulière via notre expérience et qu'on essaye de retranscrire dans ce film ait autant résonné.
Mais c'est vrai qu'on a eu dans les séances qu'on a faites avec le public pas mal de retours. On a fait d'ailleurs des rencontres avec en Belgique. Le film est déjà sorti en Belgique, donc on a fait pas mal de rencontres avec la Ligue Alzheimer en Belge. On a beaucoup parlé des dents proches. Il y a beaucoup de gens qui nous parlaient de ce qu'ils vivaient eux, et parfois pas du tout lié à la maladie d'Alzheimer, mais d'autres maladies, et qui se retrouvaient dans ce qu'ils avaient pu voir. Mais aussi d'autres personnes qui n'étaient pas du tout connectées à ce genre de maladie, et qui nous disaient, ah donc ça les intéressait aussi quelque part en fait, et ça leur montrait un peu ce point de vue-là, et qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette acceptation de ce type de problème, quoi.
Oui, et puis c'est aussi plus généralement l'acceptation. On vit tous un moment dans nos vies où le parent devient quelqu'un dont on s'occupe. Et donc, même au-delà de la maladie, ça parle aussi de ce moment, de ce tournant de la vie qui est quand même un moment de la vie adulte très important, parce que c'est le moment où on a un parent au-dessus de nous pour nous soutenir, et puis ça bascule, et il y a le moment où c'est l'adulte qui était l'enfant devient l'adulte qui chapeaute, qui entoure et qui soutient. C'est aussi une forme de coming of age, mais pas le coming of age de l'adolescence à l'âge adulte, celui de l'âge adulte soutenu par ses parents à l'âge adulte qui soutient ses propres parents.
Moi, j'ai pas l'impression d'une prise de conscience par rapport à une situation. Moi, j'ai pas le sentiment de ça. J'ai plutôt le sentiment qu'en tout cas, les prix, le public, les prix du public, ou même les jurys qu'on a pu rencontrer qui avaient soutenu le film, il y a quelque chose aussi de très vivant dans le film, de très positif dans l'acceptation de cette maladie, dans le fait de faire avec. Et j'ai l'impression que c'est ça qui touche beaucoup les gens, qui a fait qu'il y a eu à un moment donné dans certains festivals des prix et de l'intérêt pour le film.
Et je pense que ce que vous décrivez parlera grandement à tous nos auditeurs qui sont pour la plupart des aidants. Donc vos mots ont beaucoup de poids et c'est ce qu'on retrouve également dans le film. Ce film, justement, dernière question, alors avec déjà un très beau chemin, des très beaux prix, mérités bien entendu, mais quelle est la suite du chemin pour ce film?
Alors, ce film, il est sorti en Belgique en septembre et il sort en France aujourd'hui. Donc, on espère qu'il fera un magnifique voyage dans les salles françaises et qu'il y restera. Suffisamment longtemps pour qu'il puisse rencontrer le public le plus large possible. Le film va sortir au Québec en février 2022. Et puis ensuite, on ne sait pas encore exactement. On imagine qu'il sortira peut-être à la télé, peut-être sur les plateformes de VOD. Mais ça, ce seront des temps de diffusion qui sont encore ultérieurs et qu'on ne maîtrise pas encore. On ne sait pas encore exactement comment ça va se passer après les sorties salles.
Mais ce qu'on peut voir déjà, c'est parce qu'en Belgique, on a un peu d'avance puisque le film est déjà sorti, il a déjà fini sa sortie salle. C'est qu'il y a un deuxième réseau de diffusion qui se lance beaucoup. Alors, pas mal au niveau des scolaires, parce qu'il y a un aspect très pédagogique. Enfin, en tout cas, beaucoup de profs ont aimé le film et le passent en classe, notamment en Belgique, qui fait partie du prix des lycéens. Je crois qu'il y a quelque chose d'équivalent en France, c'est-à-dire que le film voyage pas mal dans les collèges et les lycées. Et il y a un réseau aussi par rapport à tout ce qui est réseau santé, on va dire. On a fait pas mal de festivals liés à la santé, liés à l'Alzheimer. Et il y a des écoles aussi qui veulent, des écoles donc d'aides-soignants, de gens qui forment des élèves autour de la maladie mentale, qui veulent projeter le film, qui veulent montrer ça aux élèves. Donc on va continuer, je pense, à montrer le film aussi dans ces réseaux-là. Et c'est vraiment très intéressant ce que ça génère comme question, comme rencontre, quoi.
Eh bien, on vous souhaite un long succès avec ce film. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, mais continuez de nous écouter, de nous écrire. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.